Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Tati Mampoukou.
Okapi.
Bienvenue dans cette seconde partie du magazine Okapi Service. Comment assurer une bonne prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre? Nous en parlons avec Maître Barthélémy Tshigologo Sebouyangé. Il est spécialiste en genre. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour messieurs les journalistes.
Nous précisons également que vous êtes l'auteur de la publication intitulée « Prise en charge holistique des femmes et filles survivantes des violences basées sur le genre », paru que vous avez publié. Si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos commentaires au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous envoyer vos commentaires sur la page Facebook du magazine Okapi Service. Et nous attendons également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente et coordonne cette émission sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Élise Kavira réalise ses numéros et Billy Landroubetou s'occupe de la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Comment assurer une bonne prise en charge des survivantes des violences, des victimes des violences basées sur le genre en RDC? C'est de ces thèmes que nous sommes en train d'aborder dans notre deuxième partie du magazine Okapi Service avec Maître Barthélémy Tshigologo Sebouyangé. Il est spécialiste en genre. Nous rappelons qu'il est spécialiste en genre. La prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre VBG en RDC fait face à beaucoup de problèmes. Les spécialistes évoquent notamment les contraintes liées à l'accès limité aux services sociaux des bases tels que les hôpitaux et autres ouvrages, la stigmatisation et la discrimination. Les survivantes du VBG font face également à une forte stigmatisation sociale, ce qui peut perturber, ce qui peut au fait les dissuader de chercher de l'aide et de dénoncer les violences subies. Il existe également un besoin urgent de mieux coordonner les efforts entre les différentes structures et agences gouvernementales qui offrent des services de prise en charge holistique et efficace. Comment alors assurer une bonne prise en charge des victimes des violences basées sur le genre en RDC? Nous en parlons dans cette deuxième partie de ces rendez-vous. Maître, dites-nous, que devons-nous comprendre par les concepts violences basées sur le genre?
Merci, monsieur le journaliste. Donnez
également des exemples concrets.
Merci, monsieur le journaliste. Vous m'avez déjà présenté, bien sûr. Je suis avocat, expert en genre et lutte contre les violences basées sur le genre. Je suis aussi également enseignant à l'école du genre de l'université de Goma. Les violences basées sur le genre sont des actes répréhensibles, dirigés contre les personnes en raison de leur sexe, leur origine, leur nationalité, leur tribu. Donc ces violences sont des atteintes profondes aux droits humains qui transcendent les frontières, les cultures et les classes sociales.
Et lorsqu'on parle du genre humain, on voit l'homme et la femme.
Oui, mais au-delà de ça, au-delà de l'homme et la femme, on voit aussi les appartenances socioculturelles. Par exemple, il y a les handicapés, il y a les albinos, il y a les aveugles. Tout ça font partie de ces blocs qu'on appelle les genres. Ce n'est pas seulement l'homme et la femme, bien sûr, que c'est une
définition. On trouve également les handicapés parmi les hommes et parmi les femmes.
Tout à fait.
Les personnes à mobilité réduite.
Tout à fait. Les personnes de troisième âge sont aussi inclus dans la constellation genre. Oui.
Et des exemples concrets liés à la violence, liés au genre, est-ce qu'il y a des exemples concrets qui peuvent servir des repères pour nos auditeurs et internautes?
Tout à fait. Et quand on parle de violence basée sur le genre, par exemple, un exemple concret, on voit d'abord les violences sexuelles. Violence sexuelle, c'est parmi les violences basées sur le genre. La discrimination professionnelle, la discrimination liée à une catégorie, à une certaine minorité. C'est ça aussi, par exemple, une tribu X est majoritaire dans un service Y, et dès que une autre tribu Y veut faire entrer dans ce service, étant donné que ce service est déjà, il y a déjà une prolifération d'une tribu X, cette tribu ne voudra jamais que la tribu Y puisse y accéder. Là déjà, vous voyez que c'est une violence basée sur les gens liés à une tribu, liée à une catégorie personnalisée, liée à une considération socio-culturelle dans une société XYZ. La violence est basée sur les gens dans une certaine catégorie.
Maître Barthélémy, quels sont les facteurs qui font que ce type de violence puisse émerger dans une communauté?
Tout à fait. C'est ce qu'on appelle les facteurs favorisants. Les facteurs favorisants des violences basées sur le genre, il y a d'abord la déscolarisation. Vous allez voir, il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de femmes qui n'ont même pas eu accès à voir même à atteindre même les niveaux X, Y, Z de niveau intellectuel. La déscolarisation, il y a aussi l'ignorance de la population. Il y a aussi la présence des textes légaux, mais qui ne sont pas vulgarisés. Donc, il faut que ces textes, les instruments juridiques nationaux, sous-régionaux, régionaux, internationaux soient suffisamment vulgarisés pour que la communauté soit au parfum d'une manière instantanée et d'une manière permanente de leurs droits et de leurs devoirs vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de son prochain.
Et est-ce qu'on peut avoir une idée sur... faites-nous un état des lieux de la situation sur les violences basées sur le genre en RDC. Quelle est la constatation que vous faites en tant que spécialiste?
Avant d'y arriver, messieurs les journalistes, nous voulons faire le distinguo, parce que quand on parle des violences basées sur le genre, ou bien lutte contre les violences basées sur le genre, il y a deux grandes phases. Il y a la phase préventive et la phase prise en charge, ou bien la phase réponse. Dans la phase préventive, on voit la sensibilisation, l'organisation de différentes formations, et ces différentes formations doivent être en faveur des leaders communautaires, des leaders d'opinion, des autorités politiques ou administratives, religieuses, les militaires, les policiers, et pourquoi pas vous, les journalistes, les avocats, médecins, parce que il faut savoir, monsieur le journaliste, que les violences sur le genre n'épargnent personne.
Mais et ce sont des notions qui ne sont pas assez connues du grand public.
Tout à fait, c'est pourquoi je vous mets devant votre responsabilité comme les chevaliers de la plume, pour qu'à votre niveau vous puissiez pérenniser cette lutte en nous accordant par exemple des espaces pareils,
des communications
pour qu'on puisse relayer le message, pour que la dernière personne qui habiterait dans les coins et les recoins du monde puisse être au courant de comment, quels sont les mécanismes, quelles sont les stratégies pour lutter contre les violences sur les gens. Ça c'est la phase préventive. Maintenant la phase réponse ou bien la phase prise en charge. Cette phase prise en charge, on parle de la prise en charge holistique. Holistique en question, on voit les volets médicaux, les volets psychologiques, les volets juridiques et judiciaires, les volets socio-économiques et les volets communautaires. Et c'est de là où on va parler de la gestion des cas de violence basés sur le genre. On ne peut pas parler de la prise en charge holistique des femmes survivantes des violences basées sur le genre sans parler de la gestion des cas. Et quand on parle bien sûr de la gestion des cas, il faut recourir aux six grandes étapes de la gestion des cas. Là, on voit la présentation et engagement, l'évaluation, l'élaboration d'un plan d'action personnalisé, la mise en œuvre d'un plan d'action personnalisé, le suivi personnalisé et la clôture du dossier.
Je reviens sur ma question, maître Barthélémy. Je voulais savoir quel état des lieux faites-vous sur les concepts ou l'adhésion du concept genre ici en RDC.
Oui, messieurs les journalistes, vous allez constater que la République démocratique du Congo a toute une panoplie de textes, a toute une panoplie des instruments juridiques portant protection et lutte contre les violences basées sur le genre. Et vous allez remarquer que ces textes sont là, mais comme je le disais tantôt,
ils ne sont pas vulgarisés,
ils ne sont pas connus de tous. Donc, la responsabilité est jetée devant l'État congolais pour que à son niveau, il puisse savoir quelles sont les stratégies, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en œuvre pour que ce texte soit vulgarisé, soit connu, même par le plus vulnérable qui habiterait dans les coins et les recoins de la République.
Il y a des auditeurs qui sont au standard, donc on va leur donner la parole, maître, et puis passer dans ces rendez-vous. Nous donnons également la parole à la population. Permettez-nous d'aller au standard, donner la parole aux premiers intervenants, et puis on va retourner pour développer un autre sujet. Comment assurer une bonne prise en charge des survivantes des violences basées sur les genres en République démocratique du Congo? C'est de ces thèmes que nous sommes en train d'aborder avec maître Barthélémy Tchigologo Sebouyangé. Il est spécialiste en genre. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Votre connexion Internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. Radio Okapi.net à votre service.
Monsieur Malonga, vous nous appelez depuis la ville de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Tati. Je suis déjà chez moi à Bandundouville.
Depuis Bandundouville, je rectifie. À vous la parole.
Ok. Merci, Tati. Comme l'invité vient de dire là-bas, il n'y a pas non plus de loi pour pouvoir protéger ces femmes et surtout ces victimes-là. Et puis, je félicite aussi la maman. Ministre d'État qui se charge vraiment, et ça se voit, ses travaux, en tout cas, sont en train vraiment de produire des actions, puisqu'il a des témoignages de ces victimes-là et de l'assistance. Mais Tati, je dis que notre l'État, oui, est là. Mais l'État, air des Congolais, se met comme observateur de ce qu'il peut réaliser. Et nous, nos dirigeants sont le plaintif. À chaque chaussure, le dirigeant RD Congolais se croche dans un événement comme ça. Il doit proclamer, il doit se déclarer que non, il est ceci, il est ceci, il est ceci. Au lieu de chercher la solution, les autorités sont là pour présenter si les rapports, si quoi, on ne sait pas. Or, nous sommes ici, nous n'entendons pas vraiment les rapports d'autres pays pour présenter ça au monde entier. Alors, la solution pour se charger de ces personnes et la victime de la violence, c'est quoi? Nous avons un ministère sectoriel qui doit vraiment organiser et qui doit avoir des voies et moyens pour avoir les solutions de ce genre-là. Alors, nous sommes la population, nous sommes aussi les observateurs, nous pouvons donner les instructions et les voies et moyens, mais ceux qui sont là-bas, il y a des conseillers, il y a tout le ministère qui doit présenter un vrai rapport au président de la République, puisqu'il a besoin de ça, et pour pouvoir faire un management dans ce ministère-là, pour se charger de ça. Vous voyez le docteur, le fameux prix Nobel a fait vraiment son travail. Mais ce n'est pas à lui encore de s'acharger de ces femmes-là ou bien de ces personnes-là. Alors c'est l'État. Et si je dis l'État, c'est le ministère de tutelle. Mais si le ministère est là, et puis on cherche encore d'aide, et il faut nous aider, il passe ici, cela, dépend des autres, vous voyez que ça montre les compétences du gouvernement.
Oui, mais Monsieur Malonga, s'il vous plaît, vous qui êtes à Bandundouville, est-ce qu'il y a des cas qui sont documentés, que l'on peut classer dans les paniers des violences basées sur le genre.
En tout cas, ici, c'est en quel élève. Peut-être que vous avez l'information de notre situation Mobondo ici. Hein? Là, vraiment, nous avons des personnes déplacées qui sont ici en, dans la ville de Barundu. Le média aussi le font chaque fois, documente tout ça. Et à part les Mobondo, il y a d'autres tracasseries qui se font ici et ces personnes victimes de la violence sont ici. Le médecin les connaît. L'État aussi, la sécurité les connaît. Alors, moi je dis seulement qu'il y a des services appropriés à faire cela. Moi je ne suis pas là pour dénoncer tout ça, mais j'interpelle lors du Conseil des ministres, et chaque vendredi je félicite les chefs de l'État, alors qu'ils doivent maintenant maintenir ça, puisque la population souffre. En réalité, Tati, nous souffrons. C'est ça les rapports. Nous souffrons.
Merci beaucoup,
alors,
M. Malunga.
Oui. À notre gouvernement.
Merci beaucoup, M. Malunga. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bandundu que vous intervenez. On retourne ici à Kinshasa, maître, pour donner la parole à Gaston, qui est aussi avocat. Bonjour, maître. Et on vous donne la parole.
Hein. Merci pour la parole. Bon, je pense que les textes prévoyant les droits et libertés fondamentaux sont connus, hein. Il y en a assez dans notre pays. Nous avons les textes sur les plans internes, mais aussi sur les plans internationaux.
Des conventions.
Alors, quand on parle de droits et libertés fondamentaux, c'est pour tout le monde. On ne fait pas vraiment, on ne fait pas distinction entre hommes et femmes. Mm. Et lorsque vous parlez sur les conflits basés sur les genres, moi, je vois plus l'attitude, hein, l'attitude que nous avons des uns envers les autres, plutôt les femmes envers les hommes et les hommes envers les femmes. Hein, comment les femmes sont considérées dans notre société. C'est là où je dirais qu'il y a un comportement que je qualifie ici de primitif qui continue à nous gouverner. Vous savez, avant l'arrivée de l'homme blanc ou des droits écrits, nous avions une considération, une place qu'on donnait à la femme. Mais avec l'avènement de la civilisation, il fallait qu'on change d'attitude. Mais malheureusement, que ce soit les gouvernants ou les gouvernés, nous sommes restés primitifs dans notre manière de penser.
Ah, c'est ce que tu qualifies de comportement primitif.
Oui, c'est ce qui fait qu'il y a vraiment une nette différence entre une femme et un homme dans notre société. Oui. Alors, il faut tenir compte de ça. Moi, je pense que le changement d'attitude, pour faire que la femme soit considérée comme tout homme qui a tous les droits, mais aussi les obligations. Mais je voulais aussi préciser une chose que, normalement, c'est l'État qui a l'obligation de protéger les droits et libertés fondamentaux qui sont garantis dans les textes, à travers les mécanismes de protection qui sont là. Ils sont là que vous connaissez plus que moi peut-être. Hein. Mais apparemment, c'est comme si l'État n'existe pas. Et ce mécanisme, c'est pour ça que j'ai dit, ce n'est même pas bon de dire qu'on est un état de droit au moment où ce droit-là n'est pas appliqué. Nous, en droit, nous disons, lorsque un droit qui est prévu n'est pas appliqué, c'est que ce droit n'existe pas. Donc, nous ne sommes pas un état de droit, bien que dit textuellement comme ça. Nous sommes un état, nous sommes dans un état de la jungle. Donc, vraiment, voilà, l'état de terre est dans le domaine de protection. Parce que lui qui est vraiment censé protéger d'autres mécanismes, plus sociaux et tout comme ça, mais lorsque ce mécanisme et l'État n'existent, ne font rien, donc c'est que nous pouvons conclure que les droits n'existent pas dans l'État de ce.
Merci beaucoup.
Je pense que vous pouvez pouvoir tout éclairer.
Merci beaucoup, M. Gaston. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Vous avez évoqué la dimension liée au comportement que vous avez qualifié des primitifs, hein, qui entre en conflit avec les lois et conventions que la RDC a ratifiées, se rapportant à la lutte contre les violences basées sur les genres. On part cette fois-ci à Mweka pour donner la parole à Isaïe Mbachi. Bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour aux auditeurs de la radio, même au Capi.
Nous vous
bonjour
écoutons.
Bonjour à tout le monde qui m'écoute à cette heure. Je suis vraiment très flatté de ce sujet. Et ce que moi je trouve, c'est quoi? C'est puisque l'État s'est affaibli de ses fonctions. C'est-à-dire, au moment où l'État était vraiment très sévère, la violence avait aussi diminué. si vous regardez bien pour ces derniers temps, le pourcentage de violences basées sur les gens a été diminué. Pourquoi? Puisque même l'État est victime aussi de ces violences-là. Alors, si vous regardez aujourd'hui, il y en a même les garçons qui posent des actes, surtout là où il y a des guerres. Les militaires violent des jeunes filles ou ils violent des mamans comme ça. Ils disent, est-ce qu'on va me mettre où? Moi, je suis militaire ou je suis policier. Il y a même les policiers qui confisquent des femmes, des trucs comme ça. On ne les met nulle part. L'État regarde comme ça. Ou parfois, on arrête les criminels là. Après deux jours, vous verrez les messieurs là en train de circuler dans la rue comme ça. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de mesures graves sur la personne qui a commis les crimes là. C'est pourquoi le pourcentage de violence continue à diminuer puisque l'État n'est pas encore très sévère. C'est pourquoi, si parfois, avec les textes légaux qui datent de longtemps là, et qui, si les magistrats, les procureurs en mettent en guerre et puis commencent à sanctionner sévèrement les violeurs là, vous verrez que les gens vont diminuer. Puisque, quand nous regardons dans la Bible, il faut qu'on donne aussi la valeur à la femme. On donne la valeur à la femme. Si n'était était la femme, on ne pouvait pas avoir le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes aussi, nous sommes nés par les femmes. C'est pourquoi il faut qu'on donne la valeur à la femme. La Bible a autorisé, si vous voulez connaître la femme, il faut que ce soit votre femme propre. Mais aujourd'hui, les gens se prennent, quand il a déjà pris du chanvre, de l'alcool, il fait n'importe quoi, surtout dans les milieux où il y a des guerres. Regardez dans les films, les films récemment à Goma, vous verrez combien de femmes, combien de filles on a violées. Alors, ce sont des humains. Mais nous demandons à l'État que l'État puisse prendre toutes ces mesures-là en considération et commencer à punir sévèrement les violeurs.
Monsieur Zahir, moi je voulais savoir, il y a une question qui me traverse l'esprit. Dis-moi, est-ce qu'au niveau de Mweka, où vous vivez, est-ce qu'il y a des pratiques sociales rétrogrades qui peuvent être qualifiées ou taxées de violences basées sur le genre qui sont encore monnaie courante?
Oui. Par exemple, dernièrement, ici à Mweka, il y a eu des gens. Il y a eu des personnes que l'État même avait mis la main, soit disant qu'il avait publié des films de dans les TikTok comme ça, des films vraiment qui se caractérisent avec l'immoralité. Alors maintenant, l'État avait mis la main sur ces gens-là. Mais quelques jours après, on voit encore ces gens-là en train de circuler dans la rue et avec des bêtises-là, ils continuent. Vous verrez que c'est ça aussi ce qui caractérise que les gens puissent être courageux de continuer avec leurs bêtises. Alors, si l'État devient très sévère, ces bêtises-là n'auront pas encore une continuité. Le problème qui est, par exemple, ici à Mweka. À Mweka, c'est un territoire où il y a quand même les gens qui ont étudié, les gens qui ont quand même la manière.
Oui, c'est une grande ville, Mweka.
Mais quand ils voient qu'il y a des bêtises, les gens vont se regretter. Ils vont commencer à se poser des questions. Mais pourquoi de pareilles choses? Quand vous voyez le film qui se passe dans des TikTok là, par exemple, il y a beaucoup de... La violence, ce n'est pas seulement les hommes qui provoquent les filles ou les femmes. Il y a aussi des filles qui provoquent aussi des garçons. Par exemple, vous verrez une fille qui quitte d'un quartier à un autre, d'une commune à un autre, pour aller chercher les messieurs. Alors, il excite les messieurs à les poursuivre. À ce moment-là, à ce temps-là, on n'arrête pas la jeune fille, on laisse la jeune fille en train de circuler, on arrête les garçons. Et les garçons, parfois, ils partent mourir dans les cachots. Vous voyez comment ça arrive. Il faut que l'État aussi soit bilatéral. La punition soit bilatérale. Quand on voit que c'est la fille qui avait provoqué, on arrête aussi la fille, puisque violer, ce n'est pas seulement violer la femme, on peut violer aussi un homme comme ça. C'est ça aussi mon idée.
Merci beaucoup, M. Zahir Mbachi. Nous rappelons que c'est depuis... Oui, vous avez une dernière préoccupation, allez-y rapidement.
Oui, j'ai encore une autre préoccupation. Est-ce qu'il y a aussi, s'il y a aussi des textes légaux que l'État a prévu pour punir des mamans, les mamans qui violent des petits garçons là, puisque ici à Mweka, nous avons remarqué aussi, il y a des mamans aussi qui poursuivent et qui courtisent aussi des jeunes garçons comme ça. Mais parfois, ces mamans-là ont des restaurants, ils ont des gandas pour vendre de l'alcool. Parfois, quand des jeunes garçons arrivent là-bas, ils sont courtisés comme ça. Maintenant, mais les garçons là, parfois, ils perdent sa vie. Vous voyez que quand vous allez poursuivre une maman qui n'est pas à votre âge, il y a aussi une malédiction qui s'ajoute là-dessus.
Oui.
Maintenant, à la longue, la vie de ces messieurs commence à changer.
Oui, là, il y a l'incidence sur les considérations sociales. Oui, ça, c'est vrai. Merci beaucoup pour tes préoccupations, monsieur Esaïe. Très intéressante, tes préoccupations. Vous intervenez depuis la ville de Mueka. Maître, comment répondez-vous à nos auditeurs? Commençons par Malonga de Banoudouville.
Oui, ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Qui sont palpables, et des comportements rétrogrades qui ont déjà élu domicile dans toute la communauté, pas seulement au Congo, pas seulement en Afrique, même dans le monde. Les violences basées sur le genre dépassent même les frontières, dépassent les cultures, dépassent vraiment l'entendement humain. C'est pourquoi je disais dans mon introduction que les violences basées sur le genre, c'est une affaire de tous. Ça n'épargne personne. Par conséquent, c'est une guerre commune qui doit être déclarée contre ce fléau. Une guerre qui est coordonnée, structurée, avec des stratégies et des approches appropriées.
Malonga a même souligné qu'il y a un ministère dédié au genre, ici en RDC. Il y a des textes et lois qui sont élaborés, mais qui sont méconnus du grand public. C'est ça le problème.
Certainement, monsieur le journaliste, vous allez comprendre que je le disais tantôt qu'il y a toute une batterie, une panoplie de textes, mais qui ne sont pas vraiment vulgarisés comme il se doit. C'est pourquoi nous interpellons l'État congolais pour que ces derniers puissent vraiment mettre des stratégies appropriées, des mécanismes. Au-delà de ça, bon, vous allez voir que la responsabilité première, primordiale, incombe à l'État. La responsabilité primordiale pour lutter contre les violences basées sur le genre incombe à l'État. Mais il peut y arriver, il arrive parfois que l'État se trouve un peu submergé, se trouve un peu moins équipé pour qu'il puisse subvenir à ses besoins. C'est pourquoi maintenant l'intervention des organisations humanitaires, les ONG, il y a même des entreprises qui se rangent en ordre d'utile de bataille pour financer les projets allant dans ce sens de lutte contre les violences basées sur le genre. Donc bien sûr, l'État a sa part et tout le monde comme individu aussi a sa part. Et les organisations humanitaires nationales et internationales ont leur part.
Oui, le deuxième auditeur, il a appelé de Kinshasa, Maître Gaston, qui a parlé de certains comportements primitifs.
Rétrograde
de l'homme à l'égard de la femme, suite aux perceptions sociales ou aux réalités sociales, mais inversement aussi.
Tout à fait. C'est pourquoi il faut une stratégie pour déconstruire. Il faut déconstruire ces pratiques rétrogrades. Il faut déconstruire. Là, il faut maintenant une forte sensibilisation. Il faut une forte sensibilisation ciblée pour voir quelles sont les différentes couches influentes de la communauté qui peuvent influer dans leur communauté, en fait que les différentes mentalités là des hommes et des femmes puissent changer. C'est là où même nous interpellons qu'il faut même former ou bien sensibiliser les hommes sur la masculinité positive. Parce que les hommes, tout homme qui est champion d'une masculinité positive, et il sera en ordre d'étude de bataille pour lutter contre les violences basées sur le genre.
C'est encore un nouveau concept, maître, masculinité positive.
Oui.
Qu'est-ce que cela veut dire?
Bon, il y a une différence entre la masculinité positive et la masculinité toxique.
Ou négative,
bien sûr. La masculinité positive, c'est une masculinité qui est standardisée, qui est là pour barrer la route à tout comportement et allant dans le sens de revictimiser la femme.
Un exemple concret.
Oui. Par exemple, vous allez voir une masculinité positive. Je peux arriver chez moi en train de lessiver les habits pour mes enfants. Ce n'est pas une entorse.
Non.
Et ce n'est pas non plus un tabou.
Hein? Pas du tout.
Un homme qui, par exemple, un homme qui prépare.
Ou qui arrange la maison.
Qui arrange la maison. Qui lave le vaisselle. Oui. Et qui fait la vaisselle, bien sûr. Et alors que sa femme est là sur une chaise, en train de regarder la télé, en train, par exemple, de s'occuper d'autres travaux ménagers. Et les gens qui vont venir, qui vont visiter cette famille, cette maison, en trouvant que cet homme est en train de faire la vaisselle,
ils diront que la femme a dominé l'homme.
C'est un tabou. C'est pourquoi, c'est pourquoi nous devons, tout le monde, nous devons, nous, experts dans cette matière, vous les journalistes, nous devons nous ranger à notre titre de bataille pour déconstruire ces pratiques rétrogrades qui cherchent à maintenir l'homme à un niveau super puissant, alors que l'homme et la femme sont des personnes égales. Dieu les avait créés, ce sont des humains qui bénéficient les mêmes droits fondamentaux. Ce n'est pas dire comme tu es femme, donc tu es exclu, tu es l'homme, tu es priorisé, même si tu es un homme incompétent. Non, non, il ne faut pas associer une femme et compétente. Non. Bien sûr, il faut aussi relever que il y a ce qu'on appelle aussi le plafond de verre chez les femmes. Le plafond de verre, c'est-à-dire, toujours les femmes se sous-estiment. Pour dire que, par exemple, on dit, je remercie d'abord parce qu'aujourd'hui nous avons... une dame qui est chef de gouvernement, nous avons des femmes de fer qui occupent des postes de responsabilité, mais si vous allez piocher, vous allez comprendre que les femmes elles-mêmes se sous-estiment. Vous dites que non, ces postes-là, c'est pour les hommes. Là déjà, le plafond de verre. Donc, les femmes-là se limitent d'elles-mêmes.
Et se mettre une barre à ne pas dépasser.
Mais oui, c'est ça le plafond de verre. Mmh. Alors, c'est pourquoi donc la sensibilisation doit être multidimensionnelle. Et chez les hommes, et chez les femmes.
Oui, mais maître, ça dépend aussi des cultures, des us et coutumes.
Tout à fait, c'est pourquoi en droit on dit que toute coutume qui est contraire à la loi, c'est une coutume contre les gains.
Non, mais si c'est pratique par le passé, assurer la stabilité des ménages, des foyers, voilà.
Donc, vous avez dit par le passé, mais actuellement, avec la conjoncture actuelle, ces pratiques ne sont plus d'actualité. C'est pourquoi il faut les déconstruire. Les déconstruire comment? C'est pourquoi je vous avais dit que il faut l'implication. L'implication active et permanente des leaders communautaires. Parce que ce sont eux qui sont les détenteurs du pouvoir ancestral et ils ont une influence terrible sur la communauté.
J'ai devant moi une publication que vous avez éditée, intitulée « Prise en charge holistique hein, des femmes et filles survivantes des violences basées sur le genre ». Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé personnellement à vous documenter et à publier un ouvrage sur cette thématique
Oui.
assez méconnue du grand public, nous devons le préciser.
Tout à fait, monsieur le journaliste. Ce livre est la résultante de plusieurs recherches et plusieurs constats et plusieurs expériences de terrain, et nous avons remarqué que il y a un certain moment où les organisations humanitaires reçoivent le financement dans ce domaine de lutte contre les violences basées sur le genre, mais ces financements sont insignifiants. Par exemple, une organisation humanitaire peut recevoir un financement uniquement pour la prévention et lutte contre les violences basées sur le genre, la phase prévention. Cette phase prévention inclut la sensibilisation, il va sensibiliser, il va former sur les instruments juridiques, nationaux, internationaux, tout ça, tout sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi il est aussi impérieux d'aller en profondeur pour aller même attaquer la phase prise en charge, ou bien la réponse. Et la réponse en question, on voit les volets médicaux. Dis-moi, la femme survivante qui a été victime survivante de violences basées sur le genre, qui est soignée seulement sur le volet médical, alors que cette même femme est traumatisée psychologiquement. Il faut
une intervention. Elle a d'abord des séquelles.
Tout à fait.
De l'incident.
Tout à fait. Alors cette femme-là, elle est seulement prise en charge médicalement. Point barre. Donc, médicalement, et puis elle rentre chez elle avec des séquelles.
Des blessures
Il faut une thérapie. Il faut une thérapie psychologique pour que cette dernière puisse être soignée globalement. Au-delà de la prise en charge psychologique, il faut aussi la prise en charge juridique.
Exactement, la réparation.
Tout à fait
judiciaire. Le préjudice subi.
Tout à fait. Cette femme-là sera contente quand elle verra son bourreau être condamné.
Traîné en justice et condamné.
Être condamné. Elle sera soulagée. Mais malheureusement, vous allez comprendre que c'est rare de ces organisations qui reçoivent le financement complet. Donc, prise en charge médicale, psychologique, juridique, judiciaire, socio-économique. Donc, c'est toute une batterie de prises en charge qui doivent être vraiment prises en compte pour que la survivante puisse retrouver une femme, par exemple, ici chez nous au Congo, une femme qui connaît tout ce qu'elle a été victime de violences sexuelles. Elle est déjà rejetée de la communauté.
Oui, mais quel est le mari qui va encore l'accepter?
C'est pourquoi il faut maintenant, pour que cette femme-là puisse se relever, il faut une prise en charge socio-économique pour qu'elle puisse se réintégrer et se relever économiquement, afin qu'elle soit indépendante.
Oui, même si le mari partait parce qu'elle a été victime de violences sexuelles,
par exemple. Tout à fait. Mais si cette femme-là est rejetée par la communauté, mais la femme-là est prise en charge socio-économiquement. Là, en tout cas, elle va s'intégrer. Elle va s'autonomiser économiquement et ça va lui pousser à relever son défi pour continuer sa vie. Mais il y a toujours des gaps, il y a toujours des défis à relever, surtout dans
Même l'homme qui a été, dont la femme a été victime de violences sexuelles, lui aussi, il est l'objet des ridicules à la société.
Tout à fait. C'est pourquoi il faut fortement sensibiliser la communauté à travers les leaders communautaires d'opinion. Il faut impliquer la communauté dans la lutte contre les violences sur les genres. Si vous n'impliquez pas la communauté dans cette lutte, non, ce projet va accoucher d'une souris.
Mais on sait que maître ici au pays, il y a des mécanismes de réparation plus ou moins intégrés qui ont été lancés par le gouvernement congolais. Nous citons par exemple FOGEC qui a commencé à faire des réparations.
Fondareuve,
à Kisangani, tout ça. Ce sont des actions à louer.
Oui, ce sont des actions à louer, mais qui sont toujours incomplètes, qui sont toujours limitées. Parce que si vous faites la cartographie, la cartographie des survivantes, non, c'est comme ça. Les projets interviennent, mais les projets n'arrivent pas à couvrir la grandeur des survivantes. Par exemple, on peut intervenir ici à Kinshasa, et c'est là qu'ils sont à Bandundu, c'est là qu'ils sont au Kasai, c'est là qu'ils sont à Malembankulu là-bas. Tout ça. Donc, il faut une politique globale qui est inclusive.
Oui, mais quelle est votre perception de cette politique holistique de la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, maître Barthélémy?
Oui, la politique est simple. Il faut l'implication de tous. Les gouvernements et les organisations qui interviennent dans ce domaine doivent s'impliquer sans pour autant oublier ce que je disais tantôt, l'implication communautaire, l'implication des bases. Parce que si vous oubliez cette catégorie de gens, vous pouvez avoir tous les financements du monde, mais vous allez exécuter ces projets où? C'est dans la communauté. Et quand cette communauté est exclue, et maintenant vous allez exécuter où? C'est pourquoi il est très impérieux, il est très 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 impérieux d'impliquer cette communauté afin que celle-ci puisse s'approprier de cette lutte pour voir comment relever les défis.
Oui, mais maître, il y a des habitudes sociales, il y a des habitudes coutumières pour nos communautés qui sont socialement admises, mais quand vous venez avec des théories ou des considérations concernées comme révolues dans les milieux, ça crée aussi un choc de culture, maître.
Ça ne créera pas un choc de culture, étant donné que ces mêmes leaders communautaires ont été déjà préalablement formés,
préparés,
initiés, impliqués à toutes les étapes de l'exécution du projet. Dès que les leaders communautaires, les leaders d'opinion, les détenteurs de pouvoir coutumiers sont positivement impliqués dans la mise en œuvre de ces projets, le projet va bien réussir et toutes les étapes seront respectées pour la réussite de cette intervention.
On va aller retourner au standard maître et donner la parole à un auditeur qui appelle depuis la ville de Bandundu. Monsieur Paty, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour cher Tati et bonjour à notre invité au plateau avec vous là.
Nous vous écoutons.
La prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Souvent ces mots violence, moi je trouve comme c'est un mot générique. Hein. Si on peut entrer là bien en détail, moi je pense qu'on peut parler aussi de l'attentat lapidaire, hein, le proxénétisme. Moi, j'aimerais seulement m'arrêter sur les deux aspects de violence, si, cher invité. Est-ce qu'il faut seulement attendre que ces violences se commettent dans des zones où il y a pour sortir dans cette... Parce qu'il y a ceux qui se font publiquement, comme le cas de prosélytisme ici. Je vois, il y a un bar ici, chez moi, ici, à Bandundu-Ville. Je ne citerai pas les noms, mais sur la place publique. Il y a des jeunes filles là, qu'on a engagées dans cette bar là. quand un monsieur passe ou il cherche même du jus comme ça, vous venez là, le monsieur a engagé ces femmes-là uniquement pour lui faire entrer l'argent. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen d'anticiper, arrêter un monsieur comme ça? Est-ce qu'il faut seulement attendre quand il y aura guerre, quand les Mobondo vont envahir Bandundu, il y aura ce forfait-là, maintenant il faut sortir qu'il y a viol, ou il faut anticiper? Et comme aussi l'attentat lapidaire. Voyez même les avec nos mamans dans les télés.
Allô, monsieur Paty.
Dans leur chanson vulgaire ici. Ce qui se passe là, est-ce que c'est les musiciens qui utilisent nos mamans comme si les mamans sont chosifiées? Il faut seulement attendre. N'est-ce pas la violence sexuelle? C'est un crime aussi pénal international, cher invité, qui était auparavant conséquence, inévitable ou dommage collatéral dans des guerres. Mais aujourd'hui, c'est considéré comme un crime.
La liaison s'est dégradée avec la ville de Bandundu. Est-ce que vous me recevez, Paty? Vous êtes là? Bon, on a compris les fonds de votre pensée. Merci beaucoup, maître. On vous donne la parole. Comment réagissez-vous? Il évoque les cas de proxénètes, du proxénétisme au niveau de la ville de Bandundu, où il y a un bar qui entretient des filles pour attirer les hommes dans sa terrasse.
Oui, bien sûr. Moi, je le disais tantôt que les violences sur le genre n'épargnent personne. Il y a même des hommes qui sont survivants des violences sur le genre. Donc les hommes, les femmes, ça n'épargne personne. Étant donné que ça n'épargne personne, maintenant tout le monde aussi doit se ranger en ordre d'étude de bataille pour lutter contre ces fléaux qui met à genoux la communauté aujourd'hui. Donc ça n'épargne personne. Pour dire que l'attentat lapidaire, le proxénétisme, tout ça, ça fait partie des violences basées sur le genre. On ne va pas croiser les bras, non. C'est pourquoi il faut une forte sensibilisation, une implication coordonnée, orientée de tout le monde pour lutter contre ces fléaux.
Donc, même l'auditeur de Mouéka, il a relevé qu'à Mouéka, il y a des femmes plus âgées qui entretiennent des hommes moins âgés qu'eux. Et par après, quand ça se retourne mal, comme elles ont un pouvoir économique, parfois c'est difficile d'attaquer ces dames-là. Donc, les violences basées sur les gens ne concernent pas uniquement les femmes. Même les hommes aussi sont victimes de ces violences.
Tout à fait. Donc, c'est pourquoi je disais tantôt que c'est par erreur. Et c'est une erreur de la rue, parce que quand on parle de violence sur le genre, certaines personnes ont déjà eu l'entendement pour dire que c'est toujours les femmes qui sont victimes ou bien qui sont survivantes. Non, il y a les hommes, il y a les garçons, les jeunes garçons qui en sont aussi victimes et survivants. C'est ça, donc c'est pourquoi je disais tantôt qu'il faut un combat de tous. Une réponse coordonnée, holistique, une riposte collégiale que nous tous nous puissions faire front commun.
Maître Barthélémy, quels sont selon vous les plus grands défis auxquels font face les professionnels qui sont dans le secteur de la prise en charge des victimes des violences basées sur le genre en RDC? Est-ce qu'il y a des défis majeurs et comment contourner ces défis?
Tout ça. Merci. Les défis sont nombreux. Par exemple, comme je le disais tantôt, qu'il y a d'abord le manque d'informations, les gens ne sont pas informés. Il y a ceux-là qui sont informés, du moins une femme mariée qui est victime d'une violence sur le genre par son mari. Ça, la femme-là aura une difficulté d'aller dénoncer. Pour dire que si je dénonce mon mari, donc je perds le mariage.
Je veux casser le mariage, oui.
Je veux casser le mariage. Mmh. Et dès que je casse le mariage, donc j'aurai une foudre communautaire.
Oui. Le regard de la société envers une
tout
femme
ça.
Qui a...
Je serai discrédité, oui. Il y aura des chantages, tout ça.
La
donc,
belle famille,
la frère, belle famille et consorts. Tout le monde va se ranger contre cette dame. Nous oublions qu'erreurement, elle est dans ses droits de dénoncer pour qu'elle puisse recevoir réparation. Mais donc, il y a d'abord l'ignorance. Il y a l'inaccessibilité de certains coins de la République. Il y a le manque de services sociaux de base. Par exemple, vous allez voir, dès que quelqu'un intervient dans les coins et les recoins de la République, vous allez voir, le centre de santé est à 50 km d'un quartier. Par exemple, il y a d'abord l'inexistence, la quasi-inexistence des structures sanitaires. S'il y a existence, les personnels là ne sont pas formés pour intervenir, parce que la lutte contre les violences basées sur le genre, ce n'est pas un domaine des amateurs. Non, il faut des spécialistes, il faut être formé et informé suffisamment pour intervenir dans ces domaines.
Il y a aussi un problème de sous-information, de manque de qualification.
Tout à fait, donc les personnes ne sont pas qualifiées, les différentes structures ne sont pas équipées pour recevoir les femmes survivantes et filles, par exemple, des violences basées sur le genre. Donc, il y a d'abord la quasi inexistante des structures. Si celles-ci existeraient moins équipées, les personnels sous-qualifiés, tout ça, vous allez voir par là. Donc, vous allez comprendre que bon, les défis sont multidimensionnels, structurels, programmatiques, ces défis, et l'État est censé prendre le devant dans tout ça.
Il y a aussi la pauvreté de ménage.
Tout à fait.
Un parent qui est pauvre, lorsque sa fille est par exemple violée par quelqu'un qui est plus ou moins nanti et qui lui donne en contrepartie une tête de bœuf ou une enveloppe qui lui permet de subvenir à ses besoins pendant une ou deux semaines, il ferme les yeux.
Tout à fait. Alors que c'est interdit, la loi du 20 juillet portant contre les violences sexuelles en RDC, on ne transjuge pas sur le viol. On ne transjuge pas. Il y a aussi la déscolarisation des filles et des femmes. Parce que dès qu'une fille n'est pas scolarisée, elle sera informée où ? Elle sera informée où ? L'inaccessibilité. Il y a beaucoup de facteurs qui sont là pour que l'État, par exemple, à notre niveau, la RDC, l'État est en ordre d'étude de bataille. L'État doit occuper la première place pour lutter contre ces violences basées sur le genre. L'État doit construire des hôpitaux, l'État doit construire les centres d'écoute, l'État doit construire les tribunaux, les parquets,
les cliniques mobiles, parce que pour aller au fin fond du Congo.
Les cliniques juridiques partout pour recevoir ces femmes survivantes des violences basées sur le genre. Mais vous allez voir, c'est un défi majeur. Il y a, par exemple, tout un quartier ou bien toute une contrée de 500 km, mais qui n'ont qu'une seule structure. Et si cette structure sanitaire existe là-bas, il n'y a pas de comprimés, il n'y a pas de médicaments, et ces gens, les animateurs de cette structure ne sont pas équipés,
ils ne sont pas formés,
ne sont pas qualifiés. Bon, ce sont des défis majeurs qui poussent à ce que les survivants, les survivantes soient encore revictimisés davantage. Alors c'est pourquoi nous lançons des défis. Non, sur les défis d'abord.
Oui, mais mettre dans nos communautés où, par exemple, il y a eu des cas de violences collectives dans nos villages, ça on le sait parfois.
Oui.
Je me rappelle avoir été en reportage dans le Kassai, je pense, où les hommes, ils se sentent un peu déshumanisés parce que les femmes ont été victimes des violences sexuelles lors des conflits de Kamona Sampou.
Oui.
Mais moi, je me suis senti vraiment affecté et c'est compliqué.
Oui, c'est pourquoi, par exemple, la saison de Kassai là-bas, l'État aurait dû empêcher ça. L'État aurait dû empêcher ça. Pourquoi ? Parce que l'État doit être présent partout. Et dès que l'État est présent partout, donc, il doit étouffer dans l'œuf toutes ces intentions malveillantes, allant dans le sens de pousser à ce que la population soit victime de ce genre de violence. Donc, l'État, la responsabilité première incombe à l'État. Parce que l'État doit agir préventivement. Gérer, c'est prévoir, c'est ce qu'on dit. Donc, il faut donc l'effectivité du pouvoir.
Et penser également à la réparation de ces personnes qui sont aujourd'hui moralement démotivées, qui font l'objet de la risée de la société. Voilà.
Tout à fait. Et la réparation doit être sincère. La réparation doit être collective. La réparation doit être effective, pas fantaisiste. Hein, vous voyez, parce qu'une femme qui a été victime, survivante, pour que cette femme puisse être rétablie, il faut les quatre paquets, les volets médicaux, psychologiques, juridiques, judiciaires, socio-économiques et communautaires. Vous allez voir, si réparation il y a seulement la prise en charge médicale. Au-delà de ces quatre volets, il faut aussi la réparation collective. Il faut, par exemple, pour dire que comme nous voulons réparer, c'est quoi ici, par exemple, nous construisons un hôpital, une école.
Qui va profiter à tout le monde.
À tout le monde, à reconnaissance. Hein, de ces crimes odieux qui ont été commis dans cette zone. Mais jusque-là, bon, en tout cas, sur le pont, sur la planche, il faut relever les défis. Et le premier défi est combattre l'État. Moi,
est-ce qu'on peut avoir les grandes lignes des recommandations de votre publication, maître?
Oui, les grandes lignes, c'est nous recommandons premièrement à l'État congolais de vulgariser suffisamment les instruments juridiques nationaux, sous-régionaux, régionaux, internationaux, ratifiés. Parce que dès qu'on ratifie une convention, tu en es redevable. Tu dois nécessairement le vulgariser. Donc, l'État doit d'abord vulgariser toutes les conventions, toutes les lois internes, internationales, allant dans le sens de lutter contre les violences basées sur le genre. Recommandation aux humanitaires qui interviennent dans ce domaine de lutte contre les violences sur le genre, ils doivent exécuter leur projet d'une manière coordonnée et professionnelle. Ils doivent s'enquêter, par exemple, dans la prise en charge médicale. Il faut d'abord une évaluation sur terrain.
De la situation sur le terrain.
Sur terrain. Connaissant, il faut faire la cartographie des structures qui interviennent dans ces domaines.
Dans les différents domaines.
Dans les différents domaines. Oui. Les structures sanitaires, par exemple, les centres d'écoute qui vont recevoir les femmes survivantes.
Les cliniques juridiques.
Les cliniques juridiques. Donc, il faut savoir, est-ce que il y a l'installation des juridictions compétentes pour recevoir
les
différentes
écoutés.
Plaintes de ces victimes. Est-ce que les commissariats de la police sont effectivement
formés,
installés dans les coins et les recoins? Est-ce que ces policiers-là, ces OPJ-là, sont formés dans cette matière? Est-ce que ces magistrats aussi sont formés dans cette matière? Tout ça. Donc, il faut une cartographie des structures. S'il y a existence de cartographie, s'il y a existence, est-ce que ces structures sont disponibles? Au-delà d'être disponibles, est-ce que ces structures ont des personnels qui sont qualifiés? Est-ce que ces structures sont accessibles? Tout ça, ce sont des petites questions qui doivent être posées par la structure qui veut intervenir dans ce domaine de lutte contre les violences sexuelles ou bien contre les violences basées sur le genre. Au-delà de ça, monsieur le journaliste, la structure en question ou bien l'organisation qui veut intervenir doit se rassurer que est-ce qu'il y a l'implication effective de la communauté qui reste dans la zone.
L'implication et l'adhésion.
Et l'adhésion. La participation même de cette communauté dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Parce que vous pouvez avoir un grand financement, un grand projet, mais sans l'implication de la communauté, là, c'est l'échec.
Ils ne sont pas associés, ça ne sert à rien.
Mais c'est l'échec.
Merci beaucoup, maître. Est-ce qu'on en trouve dans les librairies, cet ouvrage? Il coûte combien?
Oui, le livre en question est déjà publié sur Amazon. Donc à ligne, le livre est vendable à ligne sur Amazon. Il y a déjà quelques exemplaires qui sont présents ici à Kinshasa, à Goma, à Bukavu et partout au Congo. Si vous voulez en procurer, si vous voulez voir le numéro,
Rapidement.
Le numéro c'est 09 92 40 99 14 081 97 024. 80.
Merci beaucoup, maître Barthélémy Tchigologo Sebouyangé. Nous rappelons que vous êtes expert en genre. Merci d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous d'Okapi Service. Espérons que ce n'est pas la dernière fois.
Merci à la radio de la paix.
Et c'est par ici que prend fin le magazine Okapi Service que j'ai eu l'immense plaisir de vous le présenter et coordonner sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Élise Kavira réalise cette émission et Billy Landry Bétou s'est occupé de la prise des sons. Les rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau numéro du magazine Okapi Service. Excellente journée.